Donc, la question la plus importante à se poser est la suivante. Comment un commerce en ligne peut-il augmenter ses ventes, son trafic et son taux de conversion? Eh bien, qui dit question dit également réponse. À chaque mardi, vous aurez donc la chance d'entendre des experts d'un peu partout du milieu francophone. Abonnez-vous, prenez des notes et soyez attentifs. Bienvenue à tous au podcast Commerce Élite.
Donc, bienvenue à tous au volet discussion du podcast Commerce Élite. Et on a la chance aujourd'hui de s'entretenir avec Mélissa Duhamel, VP Marketing et e-commerce chez Lacordé. Pour les gens qui ne connaîtraient pas Lacordé, on parle ici d'un emblème québécois dans le domaine du plein air, possédant 8 succursales partout à travers la province. Une organisation également établie depuis 70 ans maintenant, c'est pour dire. Mélissa Duhamel, merci beaucoup d'être sur le podcast Commerce Élite aujourd'hui.
Merci beaucoup pour l'invitation. C'est un grand plaisir.
Donc, Lacordé, 70e anniversaire, je pense, il y a à peu près un an de ça maintenant, une organisation qui est là depuis excessivement longtemps. J'aimerais ça peut-être qu'on fasse un petit retour en arrière avant de parler de Lacordé ici, Mélissa. Tu as eu une grosse carrière en marketing, tu as eu des gros postes chez Desjardins, chez Raymond Chabot ou encore chez PMR. Le marketing, spécifiquement le volet numérique, c'est un métier qui évolue à vitesse grand V. Peut-être que tu pourrais nous parler un petit peu les évolutions que tu as vues à l'intérieur de ta carrière sur les changements dans le marketing que peut-être tu faisais dans ton premier emploi versus le deuxième. Qu'est-ce que tu as vu qui a vraiment changé à travers les années?
Oui. Ben, effectivement, en fait, j'ai un parcours un peu atypique. Fait que c'est sûr que mes points de repère vont être très différents parce que j'ai commencé ma carrière dans une institution financière où c'était une organisation qui était beaucoup plus structurée avec plus de moyens. Puis là, maintenant, je suis dans une PME en commerce de détail. Par contre, je pense que le marketing numérique, même le marketing, là, on pourrait dire, ça a vraiment changé. En fait, c'est plus le métier que c'était. Toutefois, j'aimerais quand même préciser que je pense que la base est toujours la même. L'objectif final est toujours le même, mais c'est la façon de s'y rendre qui est complètement différente. Tu sais, là, je vais pouvoir parler de technologie, d'AI, tout ça, mais je pense qu'au-delà de tout ça, il y a la vitesse d'exécution qui est vraiment plus la même. La facilité de collaboration aussi, que ce soit avec les gens à l'interne, inter-service, inter-département, inter-partenaire d'affaires aussi. Notre façon de collaborer avec les autres est vraiment plus la même. Il y a l'approche aussi. L'approche est beaucoup plus segmentée, ciblée. Puis là, on va vraiment suivre le canal ou le parcours de nos clients pour s'adapter. Fait qu'on va adapter quoi? Les messages. Bien on sûr. Va adapter les images. On va adapter notre ligne graphique. Donc, tout ça fait en sorte que ça amène tout un bouleversement.
Puis je pense que tu as commencé, Mélissa, ta carrière chez Desjardins. Je pense que c'était ta première expérience en marketing. Oui. Comment ça se déroulait peut-être là, comparativement à ce que tu fais aujourd'hui chez Lacordé?
Ouf, oui, ça se passait. En fait, chez Desjardins, on était à l'époque... Il y a quand même des ressemblances parce que je travaillais à l'époque chez Service de carte Desjardins/Visa Desjardins. Donc, on était un peu la start-up de Desjardins pour tout ce qui était l'environnement de paiement et le financement accordé. Et puis, c'est même dans cette équipe-là là, qu'à l'époque, on avait mis en place le financement accordé. Donc, tout était planifié. En fait, si on remet en relation la différence entre le marketing aujourd'hui et le marketing d'avant, c'est non seulement la vitesse d'exécution, mais tout était planifié dans le temps. Tout était planifié, mais ça prenait aussi une meilleure planification avec nos collaborateurs. Mmh. L'approche aussi était différente parce que l'objectif à la finalité est exactement le même. Mais maintenant, aujourd'hui, on va adapter notre façon de faire notre message au parcours du client. Puis je pense pour donner le meilleur exemple, là, c'est en marketing relationnel. Tu sais, aujourd'hui, envoyer des infolettes, tout le monde fait ça tous les jours. Fait que du upsell, du cross-sell, c'est devenu une banalité. Tandis qu'à l'époque, ben, ça prenait tout un cadre, toute une planification, que ce soit avec les gens de finance, avec les gens de service à clientèle, avec les équipes de marketing marketing relationnel en place, puis sans compter les imprimeurs, parce que tu avais des gens qui imprimaient les fameuses listes et les fameuses lettres pour qu'on puisse les expédier par la suite aux clients. Fait que c'était incroyable, mais j'étais quand même à dire qu'on faisait des modèles prédictifs. On était on en faisait deux par année, mais on avait mis en place, donc je tiens à souligner le travail d'un certain Jean-Yves Raoul et Marc-André Boyer, précurseurs dans le modèle prédictif à l'époque.
Incroyable. Donc, on était capable d'avoir un petit peu de prédiction, d'avoir des modèles prévisibles avec du marketing qui était quasiment pas en ligne. C'est incroyable tout ça. Là. C'est des choses que j'aurais même pas pensé étaient possibles. Puis là, j'imagine que par la suite, vous avez été capable d'enclencher rapidement et d'intégrer cette structure-là peut-être dans votre marketing en ligne? Est-ce que c'est quelque chose qui s'est déroulé plus tard?
Oui, ça s'est déroulé plus tard parce qu'initialement, au départ, Desjardins était très frileux à envoyer de la sollicitation par courriel à cause de tous les enjeux de fraude. Donc, le marketing relationnel pour les institutions financières, je pense que je peux dire avec certitude qu'il s'est développé un peu en retard versus les autres industries. Mais ce qui arrivait, c'est qu'on avait déjà les bonnes réflexions de dire, ben un, c'est qui ma cible? C'est quoi la rentabilité? Tu veux pas non plus offrir n'importe quel produit à tout le monde. T'sais, on est une business, on est là pour croître, on est là pour faire de l'argent. Donc, ça va être quoi la rentabilité des offres? Donc, on était capable d'avoir ces réflexions-là, puis aussi d'analyser le comportement, puis le portefeuille, le pédigré des clients pour aller optimiser nos taux de réponse. Fait qu'on était déjà là-dedans à l'époque.
Fascinant. Et bon, j'aimerais parler un petit peu de ton arrivée à l'accordé automne 2023, en plein dans la période forte pour les commerçants puis les boutiques en ligne. Comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, tu as beaucoup d'expérience. On l'a mentionné chez Desjardins, tu as eu d'autres expériences chez BMR également. Moi, je serais curieux de t'entendre ici. Qu'est-ce qu'un responsable marketing doit absolument faire lors de son arrivée dans une entreprise? Tu l'as fait quelques fois. Est-ce que tu as un modus operandi que tu suis? C'est quoi les choses primordiales que tu veux regarder et mettre en place?
Ben, en fait, il y a une chose. Je pense qu'il est important, c'est d'arriver, d'être à l'écoute, non seulement de l'équipe, de l'organisation, mais de tes futurs collègues. Je vois vraiment les équipes et les organisations, c'est des organismes vivants. C'est-à-dire que tout le monde marche, mais personne ne va marcher ou courir de la même façon. Fait que tu peux pas arriver avec une recette qui a fonctionné par exemple, chez BMR, je ne vais pas arriver avec la même recette chez l'accordé parce que, un, ben l'historique, le bagage est pas pareil. Les équipes en place n'ont pas les mêmes forces, n'ont pas les mêmes capacités, n'ont pas la même expertise. Donc, je pense qu'il est vraiment gagnant, c'est vraiment d'être là, d'être à l'écoute, de capter les optimisations, capter les points positifs puis capitaliser là-dessus. Puis c'est sûr qu'il y a des bonnes pratiques. Il y a des expériences qu'on a acquises dans nos derniers emplois, mais je pense que on doit les modeler à notre arrivée sans nécessairement imposer une façon de faire ou sans nécessairement imposer une vision de dire, ben on faisait comme ça chez BMR, par exemple, quand je travaillais chez l'accordé, donc ça va marcher. Je sais comment ça marche. Fait que je pense que c'est pas l'approche gagnante. Puis de cette façon-là, non plus, je pense pas qu'on arrive à créer non seulement une crédibilité, mais aussi une relation avec tes nouveaux partenaires, avec tes nouveaux collègues, avec ta nouvelle équipe. Je pense que les gens, s'ils sont rendus là, si une organisation est rendue là, c'est parce qu'il y a un vécu, il y a un parcours. Puis c'est sûr, l'expérience passée va nous permettre peut-être d'avoir la bonne clé, d'ouvrir une porte qu'ils n'avaient peut-être pas pensé à ouvrir, qui va nous permettre d'aller plus loin.
Et parlant peut-être de porte à ouvrir, quand tu fais ton arrivée un petit peu, quelles sont les actions que tu as envie de mettre en place? Peut-être un diagnostic un peu de ce que tu fais de l'organisation?
Ben, c'est sûr qu'il y a le fameux diagnostic Audi qu'on recommande après 3 mois. Je pense que c'est comme la recette que tout le monde parle. Je pense qu'il faut arriver là, mais c'est la façon d'y arriver qui va changer. Puis je pense qu'il va teinter un peu le succès, puis la crédibilité, puis l'intégration aussi de cette personne-là. Dans le diagnostic, je pense que c'est important d'impliquer les gens, d'impliquer l'équipe, de trouver ben qu'est-ce qui marche selon eux, qu'est-ce qui pourrait optimiser, qu'est-ce qui serait amélioré. Puis souvent, de ma propre expérience, je peux pas parler d'expérience de tous, mais les gens ont souvent une majorité des réponses ou des actions à mettre en place pour permettre à l'organisation de croître, par exemple. Donc, je pense que c'est juste des fois, une nouvelle personne permet de mettre la table, si bien je sûr. Peux me permettre l'explorer ça.
Définitivement. Et bon, l'accordé a vécu un boom retentissant pendant les années COVID. On a d'ailleurs eu votre président qui est venu sur le podcast Hypercroissance, notre autre podcast qui nous parle un petit peu de cette croissance assez exceptionnelle. Maintenant, bon, pendant la COVID, les gens se lancent dans des nouvelles activités, les commerçants en profitent. Maintenant, on sort un petit peu de cette période-là. On vit dans une période davantage de conjoncture économique depuis quelques mois. Et comment une organisation comme la vôtre arrive tout de même à tirer son épingle du jeu, à générer des ventes? Comment qu'on est capable vraiment de rester compétitif, même quand le pouvoir d'achat du consommateur est un petit peu plus à la baisse?
Oui, mais en fait, pour reprendre une expression, je pense qu'on se lance à ce moment-là dans un marathon. Là, on va se le dire, on a un vent de face.
Bien sûr.
Malgré ce vent de face-là, je pense que la question, c'est de dire comment on va faire pour réussir, mais peut-être pas demain matin, mais de commencer à mettre les actions en place pour penser après-demain, parce que c'est le après-demain qui va être gagnant avant le demain. Comme justement, là, t'as eu la chance de rencontrer Cédric Morissette, notre président, il dit tout le temps, Là, dans la situation actuelle, on ne va pas se le cacher. On ne va pas récolter les fruits de nos efforts immédiatement, mais demain. Donc, il faut être patient. À très haut niveau, là, je pense que ce que, depuis mon arrivée, là, ça fait 7 mois que je suis là. Je pense qu'on peut dire que mon conseil, c'est de garder le cap sur les objectifs puis la stratégie qu'on s'est fixée, mais tout en étant conscient qu'on va peut-être prendre un détour. Il faut vraiment s'adapter, mais garder le cap sur vers où on veut aller. Donc, nous, l'accorder, c'est d'inspirer les gens à jouer dehors. On veut amener les gens à découvrir des nouveaux sports, des nouvelles activités, de s'épanouir. C'est comme un mélange entre la santé mentale continuelle et le sentiment d'accomplissement. Fait que c'est de garder le cap là-dessus, puis je pense que c'est ce qui est important. Aussi, je pense qu'on doit assurer, c'est d'un point de vue marketing, on veut bien entendu, il faut comme assurer un équilibre entre les initiatives à court terme qui vont ramener des ventes. Parce que, tu sais, comme toute organisation, ouais, j'ai des objectifs à atteindre. C'est quoi ces objectifs-là? Donc, c'est quoi les activités qu'on peut faire pour augmenter des ventes à court terme? Que ça soit des promotions, on en veut-tu plus d'infolettes? On commence à faire du SMS pour amener les gens plus en magasin parce que l'objectif, c'est de tausser le trafic. Le trafic, soit en magasin ou en ligne, c'est notre objectif principal. Puis après, c'est notre offre produit, c'est notre service à la clientèle qui va permettre de closer la porte. Donc, il faut vraiment assurer un équilibre entre les initiatives court terme puis les initiatives qui vont asseoir la marque, qui vont nous amener plus loin, qui vont permettre toujours de nous démarquer. Puis qui vont venir renforcer la fondation, si tu veux, un peu de notre organisation. Fait que je pense que ça, c'est toujours important. Il y a aussi un élément qui est super, dans ces périodes-là, je pense que c'est une opportunité pour toutes les équipes de prendre un petit pas de recul aussi. Tu sais, quand ça va bien, je pose pas de questions, on continue. On laisse les choses aller, fait qu'on se remet jamais en question. Quand justement tu as des situations économiques comme on l'a, on a un vent de face, là, c'est important, nos ressources sont plus les mêmes. Donc, je pense que c'est une opportunité pour se remettre en question, pour évaluer, est-ce qu'on fait là, ça va-tu nous amener au point B qu'on voulait se rendre? C'est quoi le sens? C'est quoi le pourquoi puis le sens de nos initiatives? Puis est-ce que ça nous permet d'atteindre les objectifs qu'on s'est fixés? Fait que je pense que c'est vraiment important là, dans ce genre de situation, de prendre ce moment de recul-là pour être meilleur après.
Mais sur un mix de ventes à court terme, de garder le brand intact pour protéger la fondation qu'on a, réflexion, discussion à l'interne pour attaquer la prochaine vague de croissance un peu. Bon, maintenant, ce que j'aimerais peut-être t'entendre un petit peu, c'est le mix que vous êtes capable de voir, ce qu'on appelle la fameuse stratégie omnicanale pour une organisation comme la Cordée. OK, donc on le sait, vous avez une très forte présence avec beaucoup de succursales, mais vous avez également grandi fortement votre présence en ligne au cours des dernières années. Comment une directrice marketing, une vice-présidente de marketing comme toi, est capable de jongler entre nos initiatives aujourd'hui, on va tenter de faire en sorte qu'elles nous amènent des ventes en ligne. Nos initiatives aujourd'hui, on va essayer également tenter qu'elles vont amener des gens en succursale. Est-ce que tout est mixé ensemble? Est-ce que ce sont des approches qui sont différentes l'une et l'autre?
Je pense que justement, il faut changer notre vision. Dans mon expérience passée, on voyait vraiment le e-commerce et les magasins comme des canaux de distribution. En fait, je pense qu'il faut le voir comme dans un parcours client. Tu sais, maintenant, il faut s'adresser au client. Le client peut magasiner en ligne, prendre en magasin puis acheter en magasin, comme il peut aller en magasin et se rendre en ligne le soir et acheter en ligne. Fait que tout ce parcours-là est primordial. Puis je pense que le plus gros des défis pour les organisations, c'est quoi mon KPI? Tu sais, il est où le retour sur l'investissement? Puis comment je peux calculer ou suivre mon modèle d'attribution? Puis on a un peu le même enjeu aussi avec les publicités en ligne, puis les infolettes, puis les médias sociaux. C'est-à-dire que maintenant, les clients sont bombardés d'informations. Tu sais, quand tu me demandais tantôt en début de parcours, c'est quoi les différences? Les clients sont plus informés, mais aussi, il y a une surabondance de contenu, de publicité qui fait en sorte que le client va avoir presque à juste quoi. On dit la moyenne, je pense, c'est entre 9 et 11 interactions avec une marque avant de poser une action. Fait que laquelle est la bonne action qui a permis l'achat, en fait. Donc, c'est toute cette synergie-là entre le marketing numérique, le magasin, qui est super important. Puis, je pense qu'il faut vraiment le voir comme dans un parcours et non comme deux silos deux canaux de distribution, tout simplement.
Ça reste tout travail avec la même équipe, c'est toute la même équipe un petit peu qui va poser des actions.
Oui, intéressant. Exactement. Puis, des fois aussi, c'est sûr que je pense qu'un défi, c'est qu'avec le numérique, on voit immédiatement le retour sur l'investissement. Fait que, tu sais, pour vous donner un exemple, justement, dans nos stratégies, c'était en début d'année, quand on a fait un audit, on a dit, les ventes en ligne, c'est super important, mais il faut pas négliger le trafic en magasin parce que dans le fond, c'est l'expérience en magasin qui va permettre aussi aux gens de connecter avec la marque. Donc, on a mis en place des initiatives numériques pour inciter les gens à aller en magasin. Donc, ce qu'on appelle le drive to store. Les résultats sont pas les mêmes que quand je mets un fil produit, là. Donc, l'instantanéité des résultats est zéro, là. Fait que, tu sais, quand tantôt on parlait des initiatives à long terme, mais je pense que c'est important de capter puis de mettre, de bien rendre l'expérience en magasin, autant en ligne, dans nos publicités en ligne, que du fil produit ou de la publicité là, qui incite l'achat là, directement parce qu'on a une promotion ou on a un prix là, avantageux là, sur le moment.
À quel point vous êtes capable de tracer un petit peu des liaisons des fois entre une initiative en ligne et une visite en succursale? Est-ce qu'on arrive à trouver ces informations-là ou c'est encore assez difficile?
Ben, de notre côté, pour l'accorder, c'est très difficile. Par contre, ça serait fou de dire qu'il y a des grandes organisations. Je pense que je voudrais pas mettre les mains dans, faire une erreur, mais je pense que Aldo, ce genre de grandes organisations-là, qui ont des départements d'intelligence artificielle et des départements de données, sont capables de capter. Nous, ça reste vraiment un défi. Comment je réussis à le faire, c'est, puis on l'avait fait aussi chez BMR parce que c'était vraiment un défi. C'est d'aller chercher des données de marché.
Bien
tout sûr. T'as des données de trafic en magasin, t'as des données de trafic en ligne, t'as des taux de conversion en magasin, t'as ce que les sondages de satisfaction ou les études de marché te donnent comme information. Donc, en croisant plusieurs données, on est capable d'arriver à des hypothèses. Puis, je pense que le plus important, c'est que les hypothèses soient partagées à l'interne, souvent avec le CFO. On se le cachera pas parce que si une personne doit approuver ou accepter nos hypothèses, c'est le CFO.
Donc, ça doit être ton meilleur ami. Il faut que ça soit ton meilleur ami dans l'entreprise si tu veux que tes plans soient approuvés, là.
En fait, c'est ça. Exactement. Ça, puis le VPTI, tu oui. te trompes pas.
Exact. On prend des cafés avec eux.
C'est les clés du succès de ton plan marketing et de ton budget.
Effectivement, ça c'est 100% vrai. Bon, donc ça c'est intéressant, c'est vraiment pertinent même d'avoir l'information qu'on est capable de partager à l'audience aujourd'hui concernant cette dynamique que vous avez autant au niveau du numérique que des initiatives en succursale oui. maintenant. Ça fait quoi, 7 mois que t'es chez l'accordé? Oui. Comment tu vois la suite, les 12, les 24, les 36 prochains mois? Quels sont les défis devant toi?
Bien, les défis, on va se le dire, je pense qu'on est encore dans le marathon. Là, la situation, on est encore dans un contexte économique plus difficile. C'est sûr qu'on va souhaiter de la neige pour l'année prochaine de façon plus adaptée. Toutefois, ce que je nous souhaite, je pense que ça, c'est une grande force de l'accordé, là. C'est vraiment des tripeux de plein air. C'est des pratiquants. Fait que je nous souhaite d'être capable de continuer à transmettre cette passion pour le plein air. Je nous souhaite aussi de continuer à inspirer les gens à jouer dehors, de reprendre, tu sais, je sais, il y a 20 ans, à l'accordé, on était tout seul dans le marché. Maintenant, le marché, il est beaucoup plus complexe qu'il ne l'était. On est tellement, je pense, que ça fait la force de l'accordé. Donc, c'est vraiment ce que je nous souhaite. Ce que je nous souhaite aussi, c'est de travailler encore plus avec nos marques. Un élément important de l'écosystème de l'accordé qui nous différencie, c'est la qualité de nos produits. Puis, c'est les marques aussi avec qui on travaille qui nous permettent de se différencier dans le marché. Donc, d'encore plus collaborer avec ces marques-là, mais aussi des partenaires importants, là. Donc, il y a plein de micro-organismes à travers de la province qui font vivre le plein air, que ce soit en randonnée, en course en sentier, en vélo. Je souhaite à l'accordé de continuer à faire rêver puis de me coller davantage justement à ces partenaires clés-là. Dans le fond, tout le monde a la même mission. Hein.
Bien sûr.
Donc, c'est juste de faire vivre ça.
Fantastique. Mélissa, merci énormément d'avoir pris du temps avec nous aujourd'hui. Si on veut en apprendre plus sur toi et l'accordé, meilleur endroit pour vous rejoindre?
L'accordé.com.
On mettra un lien dans les notes de l'épisode. Mélissa, je te remercie beaucoup. Et pour les gens qui nous écoutent, eh bien, on se dit à bientôt pour un prochain épisode du podcast Commercialiste.